En janvier 1950, un Toulonnais de 23 ans, Raymond Maufray, part seul en Guyane explorer à pied des montagnes mythiques. On perd sa trace, on ne le reverra jamais. 6 mois plus tard, un Indien retrouve son journal au bord d'une rivière, ce journal qu'il a tenu pendant 7 mois. On y lit ses joies, ses peines, le détail de son régime alimentaire et les bruits de la jungle, mais aussi, bon sang, une écriture, un courage, une détermination un peu impossible à concevoir de la part d'un homme si jeune, pieds nus sur les racines. L'ouvrage vient de ressortir en poche, je vous en lirai 4 extraits. Il y aura aussi une évocation nostalgique du film War Games, un poème coréen sur la fraîcheur de l'âme et un homme tourmenté par ses démons. Bonsoir, c'est Richard Guettet et bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 22h à minuit tel un phare. Dans cette forêt équatoriale de sons que peut être la nuit radiophonique.
Box, littérature aléatoire.
Premier extrait. Des aventures en Guyane du français Raymond Maufray, journal d'un explorateur disparu. Cela date donc de 1950. C'est le journal qu'a tenu un jeune explorateur toulonnais, Raymond Maufray, avant sa disparition, toujours inexpliquée, en Guyane, dans la jungle guyanaise, en 1950. Alors, c'est terrible hein, comme histoire. Vous imaginez, il s'engage seul dans la jungle. 2 ans avant, il était en recherche d'un éditeur pour faire publier le futur récit de sa future exploration. Il est allé voir le patron des éditions Julliard et voilà ce qu'il lui a dit pour justifier de partir seul. « Pourquoi je pars seul ? Parce que j'aime la vie dangereuse et que sans porteur, sac au dos, la hachette à la main, en pleine jungle, j'aurais vraiment le sentiment d'exister pleinement, de prendre mes pleines responsabilités d'homme, de tenter une chance qui en vaut la peine. » L'aventure de l'exploration est une aventure de pureté et d'humilité. Je vais essayer de comprendre les hommes primitifs. Je vais vivre avec eux. Je vais retrouver les vieux instincts oubliés. Vous imaginez ? Donc le texte est disponible aux éditions Point. J'en lirai 3 autres extraits d'ici minuit. Vraiment, c'est un truc très rare. Hein. Il est pendant cette journal 7 mois d'exploration. À un moment, il l'a laissé sur un rocher en promettant... dans la dernière à ses parents qu'il ne lui arriverait rien. Il s'est probablement noyé, disent les gens qui connaissent le mieux le dossier, et le journal a été retrouvé 7 mois plus tard par un Indien au bord d'une rivière. Vous imaginez l'intention, je veux vivre pleinement. Il voulait aller comme ça partir à la rencontre de tribus inconnues. Quand on pense qu'il y a des gens qui ont la frousse en traversant le périph' parisien ou bien en sortant de France, hein, ça à 23 ans quand même ça donne des leçons. On n'a qu'à partir tous ensemble en Guyane ou alors allez-y tout seul. Les boches ont chanté une partie de la nuit. Il a fait froid, il a plu, impossible de dormir. Au petit matin, j'aperçois sur la branche d'un arbre tombé tout proche un iguane superbe. Sans me lever, la carabine étant à ma portée, je tire, il tombe et je le repêche aussitôt. Cuit avec du riz, il me sert de petit déjeuner. C'est alors que je m'aperçois que mon canot a rompu ses amarres. Il va à la dérive. Je le rattrape à la nage et le ramène ainsi sur plus de 200 mètres. Exercice matinal qui me met en forme. Je calfate, répare demain le départ. Et puis, l'indicible tristesse des soirs m'accable à nouveau, inexplicablement. Les boches palabrent, une tortue mijote, des crapauds buffles coassent, la flamme danse, les mineurs qui étaient venus pour la journée au dégrade sont repartis, le catori chargé de vivres pour la semaine. Une angoisse formidable me barre la poitrine. Ma gorge se serre, je sens parfois des larmes me brûler les yeux. Je sens que cette appréhension est la peur de la solitude à laquelle je me contrains. J'en viens à songer à ceux qui m'ont écrit au journal, se proposant comme compagnon de route. Ah, oui, un copain avec moi ce soir, fumer ensemble notre pipe, comme dans les veillées routières.
Te souviens-tu, Marcassin ? Je pensais que ce serait dur physiquement, c'est terrible moralement. Moi qui pensais tenir sans faiblesse, qui avais envisagé toutes les hypothèses, jamais l'idée d'être cafardeux ne m'était venue. Il est vrai que l'inaction de cette journée est cause en partie de ce cafard. La détente est néfaste pour moi, l'effort devrait être continu. Il ne devrait même pas y avoir de nuit. Marcher, marcher sans cesse, s'abrutir de fatigue, devenir un automate, ne plus penser. Tyrannique dans ces conditions, mon subconscient m'invite sagement à rebrousser chemin, à vivre en homme et non en sauvage, à profiter de la vie de chaque jour, si misérable soit-elle. Pourtant, en dessous de ce cafard, je perçois la volonté de réaliser ce raid, une force d'aller de l'avant qui me fait dominer la peur. Réaliser ce raid tel que je l'ai conçu, pour rien au monde, je n'abandonnerai.
Nova Book Box, parfois, une page suffit, quoi.
L'angoisse et les larmes lui brûlent les yeux. Deuxième extrait, des aventures en Guyane de l'explorateur français Raymond Moffray, journal d'un explorateur disparu, ça vient d'être réédité en poche chez Point. Le texte date de 1950, année au moment de laquelle, comment est-ce qu'on se dit, c'est pas français ça, année, c'est l'année où cet explorateur français de 23 ans, vous vous rendez compte, est parti tout seul à la rencontre de tribus inconnues de Guyane. Il voulait traverser des montagnes mythiques, il est parti seul et au bout d'un moment, ben, il s'est perdu. On n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est probablement noyé et ce texte, ses aventures en Guyane, eh bien, c'est le journal qu'il a tenu pendant 7 mois, quasiment au jour le jour, seul, avançant, progressant dans la jungle. Et miraculeusement, ce journal a été miraculeusement retrouvé par un Indien, 6 mois après la disparition de Raymond Moffray, au bord d'une rivière. Et ce qu'il y a de fou, c'est que le texte est comme ça, hyper précisément écrit. Moi, c'est la raison pour laquelle, là c'était le deuxième extrait, il y en aura 2 autres d'ici minuit, j'ai vraiment flashé sur le truc, parce qu'on est vraiment dans la peau, sous les ongles de ce jeune homme extrêmement courageux, 23 ans. Et moi je suis toujours un peu froussard, mais 23 ans je l'étais encore plus qu'aujourd'hui. Donc vraiment à découvrir, là on l'imagine bien, son pauvre, ce qui a le cafard comme ça, sous la canopée, et pourtant qui n'arrête pas, pour rien au monde, je n'abandonnerai. Et l'évocation de la forêt, du spleen sous les arbres, il va en être question là maintenant, avec un troisième extrait du journal de Raymond Moffray. Alors pour ceux qui ont loupé le début, quand même, voilà une curiosité. Raymond Moffray a 23 ans, c'est un jeune militaire explorateur toulonnais. En 1950, il s'engage dans un voyage seul en Guyane. Il part tout seul à 23 ans. Il a l'expérience quand même, il a été para, il a eu une expérience de voyage et de mission au Mato Grosso. Mais il est revenu comme ça en étant convaincu que bah, l'exploration, c'était son truc. Il part tout seul en Guyane dans l'idée de parcourir des montagnes mythiques et d'aller à la rencontre de tribus, de tribus indiennes qu'il espère inconnues. On est en 1950, c'est peut-être après tout encore possible. Et pendant 7 mois, on a une idée très précise de son itinéraire. Et au bout de 7 mois, eh bien, on perd sa trace. Lui-même commence à se dire que l'épopée est très difficile, mais il ne baisse pas les bras. Et un jour... il ne sait plus trop où il va, mais il a l'intuition, à la fois terrible, optimiste et pessimiste, de laisser le journal qu'il a tenu pendant 7 mois sur un rocher, au bord d'une rivière. On suppose qu'il s'est noyé. On n'a jamais retrouvé son corps. Son père va partir à sa recherche pendant 12 ans, va le chercher pendant 12 ans sur des milliers de kilomètres. Il ne va jamais rien retrouver, si ce n'est donc... enfin, c'est pas lui qui a retrouvé le journal, c'est un Indien. Mais le miracle, vraiment, qui a toute sa place, je vous le dis carrément, dans cette émission, c'est l'écriture. On imagine ce type de 23 ans qui tient, qui va décrire, par exemple, là, c'est le troisième extrait, qui va décrire les bruits de la forêt. Il est tout seul.
Il a juste son, je ne sais rien, son petit cahier, une plume, et il écrit. Un crayon à papier, sans doute, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des stylos déjà à cette époque, des stylos plumes, des stylos... Oui, oui, il faudrait... je vais demander à mon assistant imaginaire de me fournir l'histoire du stylo pour savoir si en 1950, dans la jungle, quelqu'un avait un petit stylo. Voilà, je viens de le savoir. C'est sans doute un crayon à papier. Enfin, en tout cas, bref, vous allez voir, bordel, c'est écrit.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La diversité des chants d'oiseaux est fantastique. Tantôt c'est l'appel d'une femme, une génisse, un cheval allant au pas, puis au galop, le clairon d'une troupe en marche, l'aboiement d'une meute à la chasse à court, le sifflet de l'amoureux pour appeler sa belle, des cris d'étonnement, des cris moqueurs, des hurlements de terreur, et puis de véritables trilles, des vocalises harmonieuses, qui mettent quelque chose de frais et de vivant dans ce concert incessant où se mêle la voix rauque du couata, l'appel triste d'un oiseau de nuit, celui du macaque éploré et enfin les grands singes rouges ténorisant à perdre haleine. Ceci est mon concert de chaque soir avec les ploufs mystérieux dans la crique et le frissonnement des palmes et des larges feuilles sèches de palou. Parfois, l'appel du hoko, le coassement barbare du crapaud buffle. Puis, dès que le soleil paraît, perruches, perroquets, haras gros bec, zozo mon père, mêlent leurs voix et dominent de leurs notes variées, chantant la joie du petit jour, comme j'ai envie de chanter la mienne, car les nuits sont tristes, longues et froides, avec le vol aveugle des chauves-souris qui rasent la moustiquaire, le crissement de milliers d'insectes, le froissement des eaux, lesquelles cascadent sur un tronc couché.
En parlant justement de tortue, la tortue est-elle l'animal idéal pour survivre dans la jungle? C'est ce que pensait l'explorateur toulonnais Raymond Moffret, qui est donc le héros de l'émission de ce soir. Vous l'avez sans doute compris si vous écoutez ce programme depuis le début. Je vais vous proposer un quatrième extrait du journal qu'il a tenu lors de ses aventures en Guyane, c'est d'ailleurs le titre du livre, Aventure en Guyane, sous-titré Journal d'un explorateur disparu. L'objet vient de reparaître en poche chez Point. Ça date de 1950, alors je le redis, incroyable de courage, ce jeune homme de 23 ans quitte Toulon pour partir à la recherche de montagnes mythiques, de tribus inconnues à découvrir. Il part seul en Guyane. Il marche pendant 7 mois et en janvier 1950, on perd complètement sa trace. Il a laissé son journal sur une pierre. Il sera retrouvé, ce journal, 7 mois plus tard par un Indien. Et l'écriture, messieurs, l'écriture, mesdemoiselles, il est... C'est pas que ça soit extraordinaire, mais je vous demande de prêter attention au contexte. L'homme marche à 23 ans, il marche seul pendant 7 mois à travers la jungle. Il est épuisé, assailli par les moustiques, il a régulièrement peur malgré son courage, il a quand même peur, la progression à travers les terres est un petit peu, tout ceci est assez périlleux, et pourtant il trouve le temps de tenir un journal. Vous allez me dire, il a que ça à foutre, hein. Il a marché, mangé et tenir un journal, c'est pas faux, mais je suis assez stupéfait de la précision du texte. Parce qu'il faut savoir que le texte que j'ai dans les mains là, bien supérieur à de très nombreux romans que j'ai la chance de recevoir chaque jour, n'a pas été repris. Il ne savait pas
qu'il n'aurait jamais l'occasion de recopier le texte. Il ne savait pas qu'il pourrait y rajouter des précisions. Ce qui veut dire que là, le texte est extrêmement complet dans sa manière de restituer les sensations de ce que c'est que d'être seul dans la jungle pendant 7 mois, de progresser à travers ce territoire hostile. Et ce n'est qu'un premier jet. Donc, non seulement, je suppose que la France, en 1950, a perdu un aventurier de premier plan, mais sans doute un écrivain. C'est ça qui est terrible aussi. Donc, Raymond Moffret, si ton esprit est quelque part par là, parce que ce qu'il y a de bien avec les esprits, c'est que même s'ils ont disparu en Guyane, eh bien, ils peuvent se déplacer. Donc, peut-être qu'il est là, l'esprit de Raymond Moffret, en train d'écouter la radio, comme vous. Eh bien, je te tire mon chapeau, mon casque post-colonial, si je puis dire. Et voici un dernier extrait où il est donc question, sur de nombreuses pages, je l'ai un peu raccourci, de la soupe à la tortue et de toutes tous les moyens de cuisiner la tortue. Donc, si vous arrivez d'être coincé un jour dans la jungle, bah, sachez que votre survie va passer par la tortue.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La préparation d'une tortue est devenue pour moi un rite sacré et immuable, car c'est un véritable régal et je sens un nouvel afflux de force et d'optimisme à chaque digestion de cet animal providentiel qui, dorénavant, me servira de fétiche. Avec amour et pitié, j'entreprends à la hache de séparer la carapace. C'est un travail fort délicat et assez long car la carapace est dure, la hache glisse, et il s'agit de bien retirer le plateau intérieur sans ouvrir les tripes, ce qui serait un désastre. Lorsque les 4 attaches de cornes sont tranchées et le plateau découvert, je scie avec mon couteau à cran d'arrêt la peau y adhérant encore, puis il faut faire une sacrée force pour arracher cela, mais on y arrive. Je suis dans l'eau jusqu'aux genoux, les petits poissons attendent leur pâture en mordillant mes jarrets, et la tortue, posée dans un creux de rocher, enfin ouverte, n'a pas perdu une goutte de son sang précieux. Je racle soigneusement le plateau inférieur, des bribes de chair y adhérant, puis retirant les intestins et l'estomac, je les presse, les vide, les ouvre, les tranche, les lave et...
À la casserole !
Absolument rien ne doit se perdre. Autour du foie, du cœur, des rognons, enfin de la tête et du cou. La casserole est presque pleine. Je verse alors tout le sang recueilli dans la carapace pour achever de l'emplir, puis je compose le menu. En y réfléchissant, je tempère l'ardeur du feu afin d'obtenir une bonne braise sans flamme ni fumée. Le sang, ce soir, sera bouilli. La prochaine fois, il sera frit. Cela, suivant mon caprice, donne une pâte à boudin au fumet délicat. La carapace me sert de plateau à viande. J'y laisse avec les poumons, l'arrière-train et les pattes postérieures, plaçant le tout dans le hamac et fermant bien la moustiquaire, car mouches et fourmis auraient tout fait de festoyer sans l'abri de ce garde-manger improvisé. Je m'assois alors près du feu et surveille la cuisson de la soupe, une cuillère à la main, un quart d'eau froide à portée. Si ça bout trop fort, je retire la casserole, tempère les braises et remets de l'eau froide, faisant, après le gros bouillon indispensable, mijoter à feu doux. Je goûte, j'attends. C'est cuit. Mais j'hésite avant de le retirer, ça pourrait être mieux cuit. Enfin, ne pouvant plus tenir, je me décide, je goûte encore. Oh, soupe exquise! Je couvre la casserole du plateau inférieur de la carapace et parfume une pipe dans le bois, car malgré ma fringale, je ne veux pas encore manger. Et cependant, je reviens au camp, je vire, je tourne, évitant de regarder la casserole, coupant du bois, écrivant, fumant, reprisant chemise ou short. Alors, je n'en peux plus. À table! Hélas, c'est vite fini.
Nova Book Box, la petite machine à lire de Radio Nova.